À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonjour, bonsoir, bonjour Laurent et bonjour Dominique. Dominique est notre invité du jour, Dominique Molin.
Bonjour
bien,
Alain.
Bien connu sur cette antenne et à qui on va laisser l'antenne aujourd'hui sur Couleur FM 97.1. Dominique va nous raconter, pas seulement raconter, son expérience à Rome. On en a déjà parlé, du voyage, de Passe ma page, groupe de jeunes lycéens, lecteurs, qui est allé rencontrer Valentina D'Urbano. Et à cette occasion, Dominique a interviewé Valentina D'Urbano. Donc je vais lui laisser immédiatement la parole pour qu'il nous raconte le contexte de l'interview et puis ce que on entendra peut-être d'ailleurs Valentina, quelques mots de Valentina.
Absolument.
J'imagine. Et donc Dominique, le plus simple c'est de lui laisser la parole. Alors bienvenue une nouvelle fois Dominique, qui connaît quand même bien les studios de Couleur FM.
Merci Alain. Alors Valentina D'Urbano est née en 1985, c'est une très jeune auteure. Elle est diplômée d'une école internationale de design dans laquelle elle a étudié l'illustration, l'animation multimédia, et elle collabore avec plusieurs maisons d'édition italiennes en illustrant des livres pour enfants. C'est une chose qu'on sait un petit peu moins. Et puis, elle est l'auteur de trois romans. Alors, ça a commencé de manière un petit peu étrange. Un jour, un ami lui signale un site internet qui organise un concours d'écriture. Et c'est ainsi qu'est né le premier de ses romans, en 3 semaines. Naturellement, c'est elle qui a gagné le concours. C'était en 2010. Et puis, en mai 2012, eh bien, un éditeur a pris le manuscrit en main. C'est « Le bruit de tes pas ». L'histoire de deux jeunes gens, Alfredo et Beatrice, qui ont grandi ensemble dans un quartier de Rome, la Fortezza, considéré comme un ghetto dont on ne sort que très rarement. Les logements sont occupés, la drogue omniprésente, le désœuvrement, les jeunes ne vont pas à l'école, ils passent leur journée à ne rien faire. Beatrice a la chance de vivre dans une famille unie alors que Alfredo, son ami d'enfance donc, est élevé par un père violent et alcoolique. Tout au long de ce roman très fort, la volonté que manifeste la jeune fille de s'en sortir et d'échapper à la malédiction du quartier se heurte au désespoir du jeune homme. Le roman a été traduit en février 2014 en langue française par Nathalie Bauer chez Philippe Ray. Lorsqu'elle a rencontré les Passe-ma-page à Rome, elle leur a dit qu'elle avait volontairement situé, c'est vrai que c'est assez frappant, son roman dans les années 70-80, parce qu'elle ne voulait pas mêler à son récit tous les moyens de communication qu'on dit modernes et qui finissent par ne plus l'être.
À une époque où elle n'était pas née. Et la Fortezza, c'est pas le nom...
Alors la Fortezza, elle nous l'a précisé, c'est pas le nom du quartier. Elle a failli nous le faire visiter, mais bon, c'était trop difficile. Elle a demandé conseil au curé de la paroisse, parce qu'il y a un curé dans ce quartier un peu déshérité. Et il lui a conseillé de ne pas nous y emmener. Voilà. Alors, c'est un roman qui est quand même assez dur, très dur même. Il commence par la mort du copain de Beatrice. Au départ, elle l'avait écrit en italien, en dialecte. Elle mêlait facilement l'italien, le dialecte et puis un langage assez cru. Et puis son éditeur lui a conseillé de laisser les dialogues comme elle les avait écrits, c'est-à-dire comme elle les entendait elle. Mais pour le reste, il lui a demandé de faire attention au public qui pourrait être le sien. Et donc là, elle a fait quand même une correction. On va peut-être commencer par une petite lecture.
Ah ben, bientôt.
Alors,
bien volontiers.
Quand je lis un extrait d'un bouquin, j'aime bien lire au début parce que il ne faut pas gâcher la lecture de celui qui voudrait s'approprier le bouquin. Beatrice vient d'assister à l'enterrement d'Alfredo et puis voilà, il y a les souvenirs qui affluent. Parfois, on oublie les choses qu'on a vécues. On les laisse de côté parce qu'elles semblent infantiles, absurdes. On les abandonne, on les refoule. Puis un événement vient les ramener à notre mémoire et la vision de la réalité se modifie. C'est une sorte d'étang. Son eau est claire, inerte, mais si l'on jette un caillou dedans, elle s'agite, se remplit de terre, se trouble. Cette terre qui salit l'eau était là, immobile, avant qu'une main décide de la faire remonter à la surface. Mais ça ne durera pas. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. C'est un cycle. En regardant par la fenêtre, j'ai vu la cour inondée de soleil. J'avais cessé de la voir 11 ans plus tôt. J'avais cessé de la voir car personne n'avait agité les temps de ma mémoire. Alfredo s'en est chargé. La poussière jaune, les gravats dans un coin, des mauvaises herbes dans les fissures du sol, une inscription sur le crépi gris du mur. D'ici, on ne la distingue pas, mais elle est bien là. Pour la regarder, je suis descendu dans cette cour silencieuse, ensoleillée, et je l'ai retrouvée. 11 années se sont écoulées, et personne n'y a touché. Elle a survécu au temps qui passe et aux gamins qui sont nés après nous. Je me suis penché, j'ai observé ces lettres tordues, enfantines. Je les ai suivies du doigt comme pour achever le travail qu'une tige de fer volée dans un des innombrables chantiers abandonnés avait entamé. On voyait les mots « Alfredo » et « Alle l'Inter ». Je m'en souvenais comme si c'était hier, ils les avaient écrits. « Merde à l'Inter », avais-je répliqué un peu plus bas pour le taquiner. Mais mon inscription s'est effondrée avec un bout de crépi qui a dénudé dans sa chute une partie du mur. Cruelle ironie du sort, putain de coïncidence, un caillou dans l'étang qui agite la terre. C'était l'été 1976, 2 années s'étaient écoulées depuis la nuit où son père l'avait presque battu à mort. Alfredo avait 9 ans, un bermuda gris trop grand et roulé plusieurs fois sur son ventre, le crâne rasé parce qu'il avait attrapé des poux à l'école. Il brandissait une tige en fer rouillé et gravait laborieusement le crépi. Ce souvenir est aussi limpide que si la scène avait eu lieu hier. J'ai pensé qu'il était mon ami, j'ai pensé qu'il avait vraiment existé. Ce jour-là, il avait écrit sur ce mur, posé ses mains dessus. Pour impossible que cela me paraisse, ses mains même m'avaient touché, ses mains qui n'existaient plus. La facilité avec laquelle on s'habitue à la mort d'un être est épouvantable. On sait qu'on ne le reverra pas. Ce n'est pas parce qu'il est parti, on ne peut nourrir le moindre espoir de le retrouver par hasard, on sait qu'il n'y aura aucune coïncidence de ce genre. C'est tellement abominable que ça vous donne envie de hurler. Je me suis assise par terre dans la poussière poisseuse, j'ai appuyé le front contre le mur et j'ai crié. J'ai crié de toutes mes forces, j'ai crié au point de m'arracher les cordes vocales, au point de me déchirer tout entière. Alors Alfredo est réapparu derrière mes paupières fermées sous l'effet de l'effort. Il avait 13 ans et les cheveux à l'épaule. Il en avait 7 et était ensanglanté. Il en avait 20 et son visage était bleu. Il était mort depuis 2 heures. Puis il a ressurgi à l'âge de 9 ans, s'éloignant dans un rire et agitant la main dans ma direction. Mais moi, je n'avais plus son âge. Le petit Alfredo saluait mes 21 ans de loin, indistinct, terrible, déchirant. C'est à cet instant-là que j'ai décidé de partir. Je ne peux pas vivre avec un mort, me suis-je dit. Je ne peux pas porter le poids d'un absent, je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas crever dans cet endroit, je ne le mérite pas. Personne ne le mérite. Pas même Alfredo.
C'est remarquablement traduit, je trouve.
Ah, mais la traduction est extraordinaire.
Et si je peux me permettre, c'est bien lui aussi.
Merci.
Non, mais c'est vraiment remarquablement traduit.
Non, mais c'est surtout, je crois, un texte absolument extraordinaire. On se rencontre avec un tout petit extrait, très fort, très très fort. Pour moi, ça a été une surprise de voir qu'une jeune femme, elle avait quoi ? Elle avait 25 ans. 25 ans quand elle a... Si, 25 ans.
À l'époque, oui.
C'est quand même très impressionnant. Alors... Quand nous l'avons rencontrée, nous lui avons posé la question de savoir pourquoi elle avait choisi de commencer son roman par la fin. Alfredo, on va raconter l'histoire, mais première page du livre, à l'église, on l'enterre. On va l'écouter.
Perché ha deciso per il primo libro di cominciare con la fine della storia? Per me ha somigliato al prima lettura a una scommessa, no?
Allora, in qualche modo è stata una scommessa. Io volevo mettere un punto fermo a questa storia, volevo dargli un senso, perché altrimenti se io avessi iniziato la storia dall'infanzia dei due protagonisti fino ad arrivare al finale che è la morte di Alfredo, mi sarei sentita come se non avessi detto tutto, mentre invece io volevo partire dalla morte di Alfredo proprio per dare un senso. Beatrice racconta la morte di Alfredo per far capire che cosa ha vissuto lei in quegli anni. Ma se Alfredo non fosse morto, lei quella storia non avrebbe mai sentito il bisogno di raccontarla.
Quelle voix?
Alors...
Je suis étonné par le... La voix, elle a 30 ans, on sent une voix assurée.
Elle a une voix très assurée.
Très assurée.
Oui, c'est à la fois surprenant et finalement, bien y réfléchir, pas tant que ça.
Donc on a la réponse à la question.
Qu'est-ce qu'elle nous dit donc, Alain,
du pourquoi,
pourquoi elle a fait ce pari de commencer l'histoire par la fin.
En fait, c'est une question que Dominique pose en disant... Elle est un peu guidée dans sa question, dans, par la question d'ailleurs. Est-ce que c'est un pari ? Elle dit c'est presque un pari.
C'est presque un pari, tout à fait. Voilà. Et c'est le pari de se dire que si elle racontait l'histoire du début jusqu'à la fin, elle ne dirait pas tout. Alors que là, pour expliquer comment Alfredo en est venu à mourir, elle est obligée de faire ressortir tous les faits saillants qui ont accompagné sa vie, et sa vie avec Beatrice, notamment depuis leur plus tendre enfance. Donc. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant, parce que je me souviens, la première fois que j'ai ouvert le livre, bon, au bout de 3 pages, on me dit, bah, ça y est, le livre, on l'a lu, quoi. Puis on prend la page 4, etc., etc. Puis on se rend compte qu'elle, non seulement elle tient la distance, mais elle a un sens de la dramatisation qui est absolument extraordinaire. Et on va jusqu'au bout, on avale le roman. Alors, y a une deuxième question que j'ai pas résisté. Donc, les deux héros s'appellent Alfredo et Beatrice. Et bien sûr,
j'imagine la question sur Beatrice.
J'imagine la question. Voilà. Alors, c'est quoi la question ?
Mais si tu veux, elle fait une référence à Dante, non ?
Oui, absolument.
Il nome di Beatrice, come l'ha scelto? Possiamo pensare a Dante? No.
No, non mi sarei mai permessa. No, in realtà è un nome molto particolare. Un nome che nel quartiere di cui ho raccontato non si usa, perché si usano altri nomi, si usano per esempio i nomi delle telenovelas, dei fotoromanzi o comunque dei personaggi televisivi stranieri, quindi troviamo Alan, troviamo Vadim, troviamo Valentino, che è un nome un po' particolare, in Italia non si usa moltissimo. E la stessa cosa per Beatrice. Io credo che sua mamma già dalla nascita abbia voluto cercare di dargli un motivo per uscire. Io ti do un nome che non appartiene a questo posto, poi vediamo tu che cosa ne fai. E lei alla fine riesce a fare onore, tra virgolette, al suo nome, ad andarsene.
Oui, alors la question posée sur l'allusion à Dante, elle dit qu'elle se serait effectivement pas permise. Mais ce qui est intéressant, ce qu'elle explique, c'est-à-dire que dans ce milieu, enfin dans ce quartier, de ce milieu fermé, on utilise plutôt des prénoms de romans feuilletons, ou de personnages connus.
De telenovelas,
de personnages connus, célèbres à l'étranger ou en Italie. Et que là, on en cite quelques-uns.
Vadim, Alan.
Valentino, pour les hommes. Et elle dit, par contre, que le choix de Beatrice est un choix qui n'est peut-être pas un hasard, parce qu'il n'existe pas dans ce quartier.
Voilà.
Et que sa mère, en lui donnant ce prénom, elle, c'est une sorte de mission. Ben, on va voir ce que tu es capable d'en faire.
Voilà, tout à fait. Absolument. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le grand sourire qu'elle a eu quand je lui pose la question. Peut-être que... C'est peut-être une manière de dire, mais il n'y a qu'un Français qui peut se permettre de poser une question comme ça. Jamais un Italien n'aurait donné un tel prénom à un personnage de roman.
Quoique, quelque part, finalement, c'est pas un hasard, effectivement, le choix du prénom, même si ce n'est pas une référence à Dante, c'est quand même un prénom qui n'était pas usuel dans le quartier.
C'est juste, c'est pas un hasard, oui. Alors, on va peut-être écouter quelque chose que...
Ah ben, puisqu'on parlait de la voix de Valentina d'Urbano, j'ai choisi Carmen Consoli. C'est pas la première fois qu'on l'écoute sur l'antenne de Couleur FM, 97.1. Alors, Carmen Consoli est une jeune chanteuse, un peu plus âgée que Valentina, puisqu'elle a une quarantaine d'années. Et elle est née de père sicilien et de mère vénète. Elle a vécu en Sicile pour la plupart du temps. Alors, on l'assimile quelquefois à une chanteuse rock, mais oui, mais elle a aussi côtoyé d'autres types de musique, comme la musique traditionnelle. Elle a travaillé avec des grands chanteurs, dont son ami Franco Battiato, qui est le grand chanteur sicilien, auteur, compositeur, interprète. Elle a travaillé avec Angelique Kidjo, avec Goran Bregovic. Et là, aussi, elle a été assez engagée dans la critique, par exemple, des mœurs politiques. Elle a participé à des concerts de soutien, notamment, par exemple, sur les en faveur des sinistrés et des abruzes. Elle fait des peintures de la société, on va dire. Ce qui m'a intéressé, hormis sa voix, elle aussi, de Carmen Conte, celui-là où j'ai fait un petit parallèle avec Valentina d'Urbano, un parallèle peut-être un peu osé, c'est qu'en 2009, elle avait écrit assez rapidement une chanson qui s'appelle « Mandaci una cartolina »,« Envoie-nous une carte postale ». En fait, elle l'a écrit après le décès de son père. Elle l'a vraiment écrit très rapidement, en quelques heures. Et elle a expliqué dans une interview que pour elle, la musique, de façon générale, mais à ce moment-là encore plus, c'est une sorte de médicament. C'est-à-dire qu'elle considère que la musique l'a sauvée et qu'elle a transformé un poison en médicament, dit-elle. C'est-à-dire qu'elle a transformé une douleur, sinon en joie, enfin quelque chose qui peut y ressembler à une sorte d'apaisement, en fait. Et elle, alors qu'elle précise que la famille n'est pas dans l'autocomplaisance de la douleur en général. Donc c'est le parallèle avec Valentina d'Urbano, sans doute osé, mais c'est l'âge à lequel elle a écrit cette chanson, la rapidité à laquelle elle a écrit, et l'art de transformer une vie, par certains côtés peut-être difficile, en quelque chose de positif, en fait. Voilà, donc on écoute Carmen Consoli dans Mandaci una cartolina.
Giorni in cui potevi partire, perché hai pensato proprio a lunedì. Gli uccelli cantano l'estate alle porte, tempo di mare, di granite e al limone. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato senza giri di parole. Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto di coesposto in salone. Chissà quale amara considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Tra tutti i giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì. Strade caotiche, litigi agli incroci, quanti cafoni su veicoli osceni. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato in questa triste occasione. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, mentre stai sul bagno asciuga e cogli con stupore un nuovo giorno. Thank you.
une carte postale où tu apparais en photo avec le sourire, souriant, et où tu lis un journal ouvert sur la page sportive avec ta chemise blanche. Enfin, tout le texte fait référence effectivement à la vie de son père, à ses passions, à ses goûts. Et il est écrit en 2009, il y a 6 ans.
Voilà, alors on ne va pas quitter quand même tout de suite le bruit de tes pas d'abord, parce que c'est vraiment un roman qui a enchanté les jeunes avec qui nous sommes allés rencontrer Valentine, mais qui n'a pas enchanté seulement les jeunes. Tous les adultes qui l'ont lu reçoivent tous la même impression, une impression d'une grande force d'écriture, d'une évidence, quelque chose qui est vraiment évident. Je vais encore lire un passage.
Bien sûr.
Hein, un extrait, on est toujours au début du livre. 1976, l'été, il a 11 ans. Il y a 11 ans, pardon. Des chansons idiotes s'échappaient sans arrêt des radios pour se fondre dans le craquettement des cigales. La chaleur insupportable, voilà mon souvenir le plus net de cette saison. L'été, on laissait les portes et les fenêtres ouvertes pour faire circuler l'air et l'immeuble se remplissait d'odeurs, de bavardages, de chansons. Chaque année, au mois de juin, après la fin des cours, ma mère nous faisait asseoir sur le rebord de la baignoire, mon frère Francesco, Alfredo et moi, puis nous coupait les cheveux. Heureux, les deux garçons riaient et gigotaient, mais moi, je pleurais comme une désespérée. Quand ma mère reposait ses ciseaux, je contemplais dans la glace mon horrible coupe au bol et déclarais que je ne sortirais jamais plus dans la rue. Puis j'oubliais et retournais jouer. Cet été-là, pour la première fois, j'avais une camarade de jeu. Ariane était arrivée à la forteresse quelques mois plus tôt. Elle avait mon âge, un nuage de cheveux roux et des parents en prison. Au moment de leur arrestation, une assistante sociale l'avait conduite chez sa grand-mère paternelle qui, ignorant qu'elle avait une petite fille de 10 ans, avait failli trépasser sous l'effet de la surprise. Mais elle ne l'avait pas renvoyée. Ariane a assuré que sa grand-mère était gentille. Elle nous invitait souvent chez elle, à la grande joie de Francesco, Alfredo et moi-même. L'appartement était frais, car toutes les fenêtres donnaient sur une cour intérieure que les rayons du soleil n'atteignaient pas, sale, humide, souvent parcourue d'énormes rats, certes, mais à l'abri de la chaleur brûlante. Des pieds de basilic un peu flétris se penchaient à la fenêtre de la cuisine. Sur une grosse table collée au mur, il y avait toujours quelque chose de bon à manger. J'aimais bien Ariane, mais elle ne venait jamais jouer dans la rue avec nous, prétendant qu'elle ne voulait pas salir ses vêtements. Aussi, quand Alfredo et Francesco s'en allaient dans leur coin ou sur le terrain de foot de la paroisse, je montais chez elle. Ariane parlait de choses que je ne comprenais pas, des choses bizarres qui se produisent entre les garçons et les filles. Je riais, je les répétais ensuite à Alfredo qui riait à son tour et déclarait qu'elle avait tout inventé. Nous savions déjà en quoi nous étions différents. Ma mère avait l'habitude de nous laver ensemble pour gagner du temps, mais elle éludait nos questions et nous grondait lorsqu'on lui rapportait les propos d'Ariane. Je pensais moi aussi qu'Ariane mentait, mais peu m'importait, j'aimais avoir une amie, je souhaitais que ses parents restent le plus longtemps possible en prison. 11 années se sont écoulées, et Ariane est toujours là. Son père est mort, et une fois libérée, sa mère a fondé une autre famille. Ariane a les mêmes cheveux roux, vaporeux, mais ce matin à l'enterrement, son visage avait changé. Elle s'est levée pendant la messe, sa tête a ondoyé au-dessus des autres, tandis que tous les regards convergeaient vers elle. Un silence de plomb s'est abattu sur l'église. Elle s'est agenouillée et a flanqué au cercueil des coups dont l'écho m'a fait presque suffoquer. « Lève-toi, Alfredo » a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, lève-toi, sors de là, arrête !» Dans mon dos, quelqu'un a éclaté en sanglots. Je l'ai regardé. J'ai regardé sa robe noire, trop formelle, déplacée, son visage chiffonné, brusquement vieilli. Le mien, qui, sa pâleur acceptée, m'avait un peu plus tôt semblé normal dans le miroir. Devoir baisser les bras et porter un fardeau aussi lourd à 21 ans m'a soudain paru absurde. J'ai eu envie de l'embrasser, de lui dire de s'éloigner, d'arrêter de se donner en spectacle, envie de l'emmener, ou simplement de m'étendre à côté de cette boîte en bois vernie dans la même position qu'Alfredo pour faire semblant d'être à sa place, dedans, et de lui parler comme s'il pouvait me répondre. Tu sais quoi, Alfredo ? J'aimerais savoir à quoi tu as pensé quand tu t'es rendu compte que tu étais arrivé au terminus, que tu vivais ton dernier jour, que tu allais mourir. Quelle est la dernière image que tu as vue ? Tu as peut-être appelé ma mère, puisque tu ne te souvenais même plus de la tienne. Tu m'as peut-être appelé, moi, pour me dire quoi ? Tu as peut-être compris avant de disparaître que j'ai ramé, que tu m'en as fait baver. De toute façon, tu ne peux pas m'entendre. Mais tu as laissé ton t-shirt de verte au milieu de mes vêtements. C'était ton préféré. Moi, je t'aime, Alfredo. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. À chaque seconde, à chaque instant, pendant toute ta vie, même après. Et il faut vraiment avoir envie d'aimer un type comme toi. Mais si tu sors de là, je veux bien te pardonner. Crois-moi, Alfredo. On n'en parlera plus. Si tu continues à aller mal, on n'aura qu'à échanger nos rôles. Je prendrai ta place, mais parle-moi, s'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Laisse-moi une autre image de toi, pas celle-ci. Je la déteste. Je ne l'accepterai jamais. Elle représente ma défaite. Elle me crache au visage que tu as gagné, que tu as réussi une fois de plus à te foutre de moi. Difficile de parler après...
Après un texte, hein? Oui.
C'est extraordinairement fort.
Hein? Aussi fort.
Oui, il me semble. Alors, un an a passé... On était en mai 2012, et puis au printemps 2013, l'éditeur, toujours le même, Longanesi, donc sort un deuxième roman de Valentina D'Urbano qui s'appelle Acquanera. Et si on parle de ce roman aujourd'hui, c'est parce qu'il vient d'être traduit en français, toujours la même traductrice, Nathalie Bauer, et le même éditeur, Philippe Rey. C'est l'histoire d'une jeune femme qui revient au pays pour essayer de tirer un trait définitif sur son passé. Quatre portraits de femmes dotées de pouvoirs mystérieux. Elles soignent des maladies que la médecine traditionnelle ne sait pas guérir. Et elles voient en rêve des personnes mortes qui leur annoncent des événements douloureux, bien sûr. Fortune a fait la connaissance de Luce, la fille du gardien de cimetière. C'est la naissance d'une belle amitié dans laquelle les deux jeunes filles tentent de résister à l'hostilité du village. Voilà, alors on a donc le portrait d'une vieille femme, Chiara, qui va donner sa maison à la grand-mère de Fortune, le personnage principal, une jeune femme du roman. Elle donne sa maison donc à Elsa. Elsa qui a une fille, Onda qui est la maman de... Donc c'est l'histoire de quatre générations de femmes. C'est quatre portraits absolument magnifiques. Et puis à sa manière, le second roman reprend la thématique du premier. Est-ce qu'on peut échapper à sa racine? Est-ce qu'on peut... à ses racines? Est-ce qu'on peut sortir d'un monde qui vous a retenu si longtemps prisonnier de tout? Alors on a interrogé sur Valentina, sur un certain nombre de points concernant ce deuxième roman.
Lei potrebbe parlare di questo strano potere di Clara, Elsa e Onda? È solo un elemento romanzesco o qualcosa che viene da lontano, non so, leggende...
Allora, io ho fatto delle ricerche per scrivere questo romanzo, sono diciamo un misto di credenze popolari e leggende delle varie zone italiane. Poi appunto sono entrata in contatto con delle persone che credevano davvero, credono di avere questi poteri. Io non mi pronuncio su questo, non so se sia reale o meno, però parlando con loro... e avendo avuto occasione appunto di parlare con una persona come Onda, che come Onda ha quel potere molto particolare, mi rendo conto di come spesso noi vediamo la vita solo in maniera superficiale, e invece lei mi ha dato, questa persona mi ha dato appunto una diversa chiave di lettura di quello che succede nella vita e dopo la vita, anche perché io poi sono atea, però sono un'atea poco convinta. Quindi ecco, cerco sempre, nonostante sia ateo, io frequento la mia parrocchia, vado a fare delle domande, chiedo, mi informo. Quindi ecco, questo romanzo in qualche modo è stato anche il mio modo di esorcizzare la paura della morte, perché da atea, credendo che non ci sia niente dopo, ma da umana io non posso accettarlo, e quindi ho cercato di spiegarmelo attraverso questo romanzo.
Intéressant là aussi, enfin, à la question des pouvoirs de Clara, Elsa et Onda, ces pouvoirs surnaturels en fait, hein, la question posée était est-ce que c'est, comment elle est arrivée à parler de ses pouvoirs, et est-ce que c'est pour le roman, est-ce que ce sont des pouvoirs qui existaient réellement. Alors elle a expliqué qu'elle avait beaucoup travaillé, elle avait fait beaucoup de recherches sur les croyances populaires notamment, dans toute l'Italie, elle a rencontré des gens, elle a parlé aussi de légendes avec eux, et elle a aussi parlé avec Onda, et ça l'a, enfin, je ne sais pas si elle s'appelait réellement Onda dans la vie, mais elle est convaincue elle-même que la vie de tous les jours paraît trop superficielle et qu'en fait, cette personne, cette Onda, lui a donné une clé de lecture de cette vie. Alors elle précise qu'elle-même, Valentina, est athée, mais qu'elle est une athée peu convaincue.
Absolument.
C'est-à-dire qu'en fait, elle se pose des questions, elle a besoin d'exorciser la mort aussi.
Voilà, hein, voilà, c'est ça.
Et que... mais on a l'impression d'ailleurs là que le roman n'est pas une fin en soi là-dessus, pour sa propre personnalité, c'est sa quête.
Moi, j'ai
cette impression dans la réponse.
Oui, on peut le dire comme ça. C'est une manière pour elle aussi de poser des questions,
de se poser des questions.
De ne pas avoir la réponse. Il faut lire le roman pour le savoir.
Tout à fait.
C'est pour ça que le roman est passionnant.
Tout à fait.
Il est absolument passionnant. Et qu'on n'a pas envie de rire quand on entend parler de ses étranges pouvoirs. Bien au contraire, c'est très vraisemblable.
Oui, tout à fait.
Alors, on va de nouveau écouter Valentina. Toujours à propos de Aquanera, quand même le thème central du bouquin, c'est cette impossibilité qu'a Onda précisément d'aimer sa fille. Onda, donc la maman de Fortuna, mais qui, sauf, mais alors vraiment très 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 rarement, même pas une demi-page, un paragraphe, deux paragraphes dans tout le bouquin, qui ne se laisse jamais aller à la moindre lueur de tendresse vis-à-vis de sa fille. C'est quelque chose de très, très, très dur. On lui a posé la question.
C'est anche un'altra idea, penso, i sentimenti, che sono sempre una cosa difficile. Per esempio, ovviamente, l'impossibilità per Onda di amare sua figlia, ma anche l'amicizia, Fortuna e Luce, non è sempre come una linea dritta.
E,
se posso dire,
sì, io penso che comunque quando si parla di sentimenti di qualunque tipo, di legami di qualunque tipo esso siano, sia un rapporto sentimentale che un'amicizia, che un rapporto tra una madre e una figlia, non si possa mai parlare di sentimenti lineari. Ci sono molte, molte sfumature che spesso sfuggono a chi è al di fuori del rapporto, e a me piace appunto entrare nei rapporti, raccontarne anche le bassezze, anche le meschinità, anche la parte brutta, perché quando due persone si amano, in qualunque modo esse si amino, non è mai tutto positivo, c'è sempre quel lato oscuro che è sempre presente, e a me piace soprattutto raccontare poi quella parte oscura di ogni rapporto.
Oui, alors à la question d'amitié et d'amour d'une mère pour une fille que tu trouvais, comme expliqué avant le passage, assez dur. Elle dit que quand on parle de sentiments, quels qu'ils soient, et quels que soient les liens, que ce soit une relation sentimentale, une relation d'amitié ou une relation entre une mère et une fille, on ne peut jamais parler de sentiments linéaires, selon Valentine. Souvent, il y a donc pour elle de nombreuses nuances qui échappent à la relation elle-même. En fait, elle semble dire que l'amour et l'amitié peuvent être plus forts que ce qu'on en perçoit. Et elle dit qu'elle aime entrer dans ses relations, en raconter y compris les bassesses.
Les bassesses, c'est...
Ce qui paraît important.
Oui.
Les mesquineries,
oui.
La partie laide, parce que selon elle, quand deux personnes s'aiment, de quelque manière que ce soit, ce n'est pas entièrement positif. Et qu'il y a toujours un côté obscur dans cette relation, et qu'elle aime raconter cette face sombre qu'elle semble percevoir dans tout type de relation.
Très, très, enfin, selon moi, intéressant cette vision qu'a l'écrivaine de nous-mêmes, hein, de l'humanité, de notre humain.
Tout à fait.
Est-ce qu'on n'écouterait pas quelque chose,
alors,
cher Alain Pongamb ?
J'ai choisi non pas des interprètes de l'âge de Valentine, cette fois, mais des interprètes qui pourraient être l'un son père, l'autre sa mère, étant donné leur âge, mais qui sont romains, comme elle. Ce qui est important quand on veut comprendre aussi certaines choses de Valentine. Alors, l'interprète masculin, là, ils sont en duo, ils se connaissent très bien, mais ils ne font pas souvent de duo ensemble. Ils sont très connus, non seulement à Rome, mais en Italie. Francesco De Gregori, qui est sans doute un des plus grands auteurs-compositeurs italiens, qui est né en 51, lui, et qui est passé par le Folk Studio, un des grands studios d'enregistrement de Rome, où on jouait aussi en direct, et qui était le guitariste de Caterina Bueno, qui était une grande chanteuse, qui avait commencé avec Giorgio Locascio, qui a traduit d'abord Dylan et Cohen, comme beaucoup d'Italiens d'ailleurs, et qui après s'est lancé tout seul. On l'appelle Il Principe, prince, la chanson. Et alors il a réussi ce tour de force de faire à la fois des textes de qualité, de la musique de qualité, et d'être très connu, c'est-à-dire sur les médias. Pourtant, il ne fait pas beaucoup de concessions, en fait. Il a été, il a eu la Targa Tango, qui est quand même très valorisante pour la chanson en Italie. Et là, il sera en duo, donc avec Giovanna Marina. Je sais que Dominique aime beaucoup Giovanna Marina, il n'est pas le seul. Et c'est une grande chanteuse, sans doute moins connue que De Gregori sur les grandes antennes, on va dire, de grande diffusion, mais qui est une ethnomusicologue. Elle est née en 37, elle est plus toute jeune, je dirais qu'elle pourrait être la grand-mère de Valentina. Je suppose que Valentine aimerait bien avoir une grand-mère comme ça, d'ailleurs. Elle a rencontré des tas d'intellectuels, elle a rencontré Calvino, elle a rencontré Pasolini, elle a créé le Nuovo Canzoniere Italiano, qui fera beaucoup pour la chanson populaire en Italie. Là, on parlait de légende tout à l'heure, et on recoupe.
C'est important, c'est bien.
Hein. Et puis, elle enseigne toujours, d'ailleurs, à l'école du Testaccio à Rome, qui est une école connue, ou qui fait la promotion un peu de chanteurs populaires qui, sans cette école, auraient du mal peut-être à se produire. Et là, on va les entendre dans une interprétation, c'est un petit clin d'œil, qui s'appelle Nina ti te ricordi, Nina tu te souviens, d'une chanson écrite par un autre grand de la chanson populaire
mais
italienne.
Mais qui n'est pas de Rome.
Mais qui n'est pas de Rome, c'est Gualtiero Bertelli. Qui l'avait écrite quand il avait 33 ans, en 1977. Alors, Gualtiero, et c'est une chanson dialectale, hein, en dialecte vénitien. Lui-même a d'ailleurs créé le Nuovo Canzoniere Veneto, toujours pareil, pour promouvoir la chanson populaire. Et il l'a écrite. Alors, Gualtiero est de condition ouvrière. Hein, il avait des parents qui vivaient dans un quartier ouvrier et qui étaient une chanson. Il a toujours été un chanteur qui a fait beaucoup de peintures sociales et politiques. Et là, la chanson se situe donc en 1977. Elle dit tu te souviens, Nina, combien de temps nous avons mis pour aller sur ce bout de lit faire l'amour ensemble? Alors il explique tout ça, que ça, la mère de Nina qui rouspertait parce qu'elle leur demandait mais quand est-ce qu'ils allaient se marier, le prêtre qui leur recommandait de ne pas pécher, et puis à la fin de la chanson Nina attend un enfant. Mais on se situe en 1977, c'est-à-dire il y a près de 40 ans, mais la vie est dure, dit Gualtiero dans le texte de la chanson, et maintenant j'ai peur parce que certes aimer n'est pas un péché, mais c'est encore un luxe de quelques-uns, mais maintenant Nina que tu attends cet enfant, eh bien moi je suis au chômage. Donc c'est une chanson de Gualtiero Bertelli chantée par Giovanna Marini et Francesco De Gregori, chanson populaire.
On écoute.
Andar su sto tocco de letto, insieme a fare l'amore, siani a fare morosi, a strenzerla franco su franco, e mi che c'ero stanco. Ma non te volevo toccare, tuo mare che brontolava, quando che se sposemo, il prete sai che quasi non che credeva, te giuro che a me me pareva, per fin che fosse un peccato, e adesso ti spetti un figlio e ancora la vita se dura, talvolta mi c'ha paura d'aver dopo tanto sbaglia, e amarsi non se non peccato, e ancora se un lusso de pochi, intanto tinina ti spetti, e mi son disoccupato, intanto tinina ti spetti, e mi son disoccupato.
Donc vous êtes bien sur Couleur FM 97.1, pardon. Giovanna Marini et Francesco De Gregori, ils sont eux-mêmes guitaristes, hein, mais là ils sont accompagnés par notamment Paolo Giovenchi à la guitare électrique et par Guido Guglielminetti, pardon, à la basse.
Dominique. Alors, oui, on revient un moment sur ce second roman de Valentina d'Urbano, Acquanera, donc... On l'a interrogé à propos de ce roman sur l'importance de la famille dans ces livres, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve dans les trois livres. Et donc, eh bien, on va l'écouter.
Torniamo alla famiglia, perché è molto importante. Nel primo, il rumore dei tuoi passi, ci sono due famiglie, un con genitori generosi e l'altra invece con violenza, alcol, eccetera. In Acquanera sono tre generazioni di donne e per questa famiglia dell'ultimo, nonostante ogni difficoltà, rimane unita. È quello che stupisce un po', no? Questa unità della famiglia, di una famiglia.
Allora, io credo che quando non si abbia nient'altro, quando non si abbiano delle alternative o dei modi per scappare via, e questo succede in tutti e tre i libri, perché in ogni libro i protagonisti, i personaggi non riescono a staccarsi da un determinato ambiente o da una determinata situazione. Ecco, io credo che in quel momento la famiglia sia estremamente importante, molto più di quanto poi succede magari nella vita normale, dove uno ha cresciuto a una certa età, decide di andarsene e di farsi una propria famiglia, mentre invece quando rimani chiuso in certi ambienti che sono anche claustrofobici, la famiglia assume il ruolo di salvezza, di protezione. Ed è quello che succede sia in Rumore dei tuoi passi, dove la famiglia di Beatrice non solo protegge Beatrice, ma protegge anche Alfredo, che non è il loro parente, che non gli è niente, sia in Quella vita che ci manca, invece questi fratelli, che sono fratelli per metà, che comunque si sentono molto più fratelli dei fratelli veri.
La question sur la famille, en fait, elle a différencié la famille dont on peut un moment s'échapper pour vivre sa propre vie. Et ces milieux qu'elle appelle claustrophobes, c'est-à-dire certains milieux où on est prisonnier d'une situation ou d'un état dont on n'arrive pas à sortir, et où là le mot famille, enfin l'importance de la famille, quel que soit le type de relation qu'on peut y avoir à l'intérieur, oui. Et pas obligatoirement de la famille au sens fort, parent-enfant par exemple,
hein,
est important. Elle dit que c'est un. Ouais. On retrouve ça dans ces trois romans en fait.
Oui, absolument.
Cette référence.
Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, on va l'interroger. On est toujours dans la même perspective d'un lieu dans lequel on grandit, d'un lieu très difficile, voire absolument insupportable. Et on va l'interroger sur ce thème qui est sous-jacent dans ces trois romans, qui est un thème très fort. Est-ce qu'on peut se détacher de ce moment d'une enfance difficile? Est-ce qu'on peut quitter un espace qui nous a un petit peu tenu prisonnière? Voilà, on lui a posé la question. Est-ce qu'on peut échapper à l'espace de son enfance et à son enfance finalement?
In ognuno dei suoi libri c'è l'idea che è tanto difficile uscire dai luoghi che hanno marcato la nostra infanzia.
È difficile, ma non impossibile, perché uno tende a pensare che il posto dove è nato e cresciuto sia casa, sia l'unico posto in grado di proteggerlo e di dargli una vita serena. Questo non è vero, soprattutto per le persone che abitano alla fortezza. E mentre la maggior parte di loro non se ne accorge e continua a rimanere nel quartiere, alcuni decidono di andarsene, di provare l'ignoto, lo sconosciuto, tra virgolette. Quindi escono fuori, che è un po' poi quello che ho fatto io nella mia vita. Io sono uscita dalla Fortezza, che è un quartiere di Roma che ovviamente non si chiama La Fortezza, ha un altro nome. E sono uscita, ho lanciato quasi una sfida a me stessa, ho deciso che forse potevo essere migliore del quartiere che mi aveva prodotto. E la stessa cosa poi fanno i miei personaggi principali.
La question sur est-ce qu'on peut se sortir d'un quartier, s'échapper d'un quartier, notamment quand c'est un quartier difficile, mais de s'échapper tout court à une condition de vie que l'on a quand on est enfant, en fait. Hein. Elle dit que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Elle reparle de la Fortezza, qui n'est pas, elle le répète, le vrai nom du quartier où elle vivait. Et elle dit que certains ont essayé de sortir de ce quartier, et c'est notamment son cas. Elle a décidé de s'en aller pour se lancer un défi et pour voir de quoi elle était capable.
Oui, tout à fait.
Elle dit d'ailleurs que ça apparaît là aussi dans plusieurs de ses personnages et de ses romans. L'idée d'être né dans une condition particulière ou dans un endroit particulier et d'essayer soi-même de s'en sortir, en fait, hein, ou d'en sortir, d'ailleurs.
Alors voilà, exceptionnellement, il n'y aura peut-être pas de troisième pause musicale dans cette émission un peu spéciale. Je voudrais qu'on l'entende, là, maintenant, parler de son écriture. Et puis après, on lui posera la question, mais... On va d'abord l'entendre parler de la manière dont elle écrit, parce que c'est très important, c'est très remarquable, cette façon un petit peu pas sèche du tout, mais il n'y a pas d'adjectif, c'est très précis, très précis, très concret, toujours. Elle nous dit pourquoi elle écrit comme ça.
Potremmo parlare, lei potrebbe parlarci di la sua scrittura, questa secondo me assenza di lirismo, che dà una grande forza ai romanzi, no? Una lingua che mi pare sempre precisa, che va all'essenziale.
Io quando scrivo cerco di togliere, non mi piacciono le descrizioni troppo dettagliate, non mi piacciono i pensieri dei personaggi scritti in maniera eccessiva, ricca di particolari. Le persone sono fatte di azioni più che di pensiero, perché comunque io posso capire chi mi sta davanti tramite le sue azioni. Più difficilmente posso capirlo tramite le sue parole, perché potrebbe star mentendo, potrebbe mentirmi, mentre invece le azioni non mentono mai. Quindi cerco di trasferirlo nella mia scrittura, e questo inevitabilmente asciuga la narrazione, asciuga la storia, perché i personaggi agiscono e basta. Difficilmente si trovano lì e si mettono a pensare, i loro pensieri sono riflessi poi nelle loro azioni.
Intéressante cette réponse, je trouve,
tout hein, à
qui,
fait.
Qui dit bien hein, le tout style d'écriture qui est le sien.
Voilà, parce qu'à la remarque, parlant d'un style direct et pas trop ampoulé, on va dire.
Ouais, hein, tout à fait, oui.
Elle dit qu'effectivement, elle n'aime pas les descriptions trop détaillées où il y a trop d'excès, parce qu'elle pense que ces personnages sont plus dans l'action que dans la pensée.
Absolument, hein, voilà. Et très rarement dans l'introspection.
Voilà, en disant que l'introspection peut faire qu'elle-même se mente à elle-même, alors que l'action ne ment pas, selon, bien sûr, Valentina d'Urban.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Eh bien, on ne se lasse pas de l'écouter, Valentina. Au début de l'entretien, je lui ai demandé d'où lui venait cette envie d'écrire. Et voilà ce qu'elle nous a répondu, toujours avec le sourire. C'est ça qui est remarquable avec elle. Donc on l'écoute.
Allora, io da che mi ricordo ho sempre amato scrivere. Già da bambina comunque magari scrivo delle storie o dei piccoli racconti. Però non avevo mai pensato a pubblicare. Per me scrivere era una cosa estremamente intima, estremamente personale. Quindi lo facevo solo esclusivamente per me. Tant'è che pochissimi tra i miei amici e tra i miei familiari sapevano che a me piaceva scrivere. E quando ho pubblicato è stata una sorpresa un po' per tutti.
E allora posso chiedere come scrivi? Un momento al giorno? Ci sono momenti di silenzio e momenti di scrittura? Come fa lei?
Allora, io scrivo principalmente di notte, quando non ho nessuno intorno, quindi quando sono da sola, e scrivo sempre, ogni giorno comunque, ogni notte io devo scrivere, perché... mentre quando sei comunque ti piace, lo fai per hobby, puoi darti dei tempi molto lunghi. Quando hai un editore e devi pubblicare, diventa un lavoro. Quindi ogni giorno devi scrivere, non puoi aspettare che arrivi l'ispirazione. E io mi do un termine, cerco di scrivere almeno 3 o 4 pagine al giorno.
E quando scrive, abbandona la lettura di altri libri o no?
No, assolutamente, anzi io leggo molto di più quando scrivo, magari rileggo anche libri che mi sono piaciuti, anche per trovare l'ispirazione, ma secondo me smettere di leggere quando si scrive impoverisce in qualche modo la scrittura. Io non ci credo a quelli che dicono no, io quando scrivo non leggo niente perché altrimenti mi faccio influenzare. Mm-hmm. Anzi, secondo me la scrittura è proprio quello, lasciarsi influenzare dagli autori che ami e così riuscire a creare qualcosa di nuovo.
Chi sono i suoi autori preferiti?
Allora, i miei autori preferiti contemporanei sono 3, sono italiani, molto conosciuti anche all'estero, sono Margaret Mazzantini, Niccolò Ammaniti e Stefano Benni. Per quanto riguarda invece i classici, il primo libro che ho letto che mi ha fatto innamorare della lettura e poi della scrittura per me è stato Cime Tempestose di Emily Bronte.
Che hai scoperto a scuola o a casa?
Ho scoperto a casa.
A casa?
L'ho scoperto a casa perché...
Il caso?
No, mia mamma mi disse questo libro non mi è piaciuto, è brutto. E io mi incuriosì. Chiaramente quando sei piccola, quando sei bambina, vuoi sempre andare contro i tuoi genitori. Quindi cominciai a leggere questo libro, invece poi diventò il mio libro preferito.
Ci sono autori, non so, libri che la influenzano? Quando scrive, sente che...
Allora, io, come ho detto prima, credo che la scrittura sia soprattutto lasciarsi influenzare dagli altri autori. Per me, un autore che ha una grandissima influenza su di me è appunto Niccolò Ammaniti. Io, quando scrivo, ho sempre un libro, un suo libro accanto. Perché magari nel momento in cui mi fermo o nel momento in cui non riesco ad andare avanti, io chiudo un momento la scrittura, apro il libro e leggo qualche pagina. E poi da lì magicamente mi torna l'ispirazione.
La question du rapport à la lecture et l'écriture est intéressante.
Il me semble, hein?
Oui. Alors, en fait, elle, on va résumer parce qu'elle dit beaucoup de choses là.
Oui, oui, oui.
Elle dit qu'elle aime écrire depuis son enfance. Elle ne se souvient plus même à partir de quand. Dès qu'elle a su écrire, elle a aimé écrire, mais elle écrivait pour elle. C'était très personnel, c'est quelque chose d'intime. Et sa famille même ne le savait pas.
Hein.
Mais elle a même été surprise un jour que... elle soit éditée, mais donc ça c'est le rapport à l'écriture depuis son enfance, on va dire. Alors après, la question quand elle écrit maintenant, elle écrit, c'est-à-dire à quel moment elle écrit plutôt, elle dit qu'elle écrit surtout la nuit, parce que c'est un moment où elle est toute seule en fait, où elle a personne. Je suppose qu'il y a le silence, elle n'en a pas parlé,
absolument.
Mais il y a le silence la nuit, et qu'elle écrit 3-4 pages par jour. Ouais. Alors elle dit qu'il y a une différence quand on écrit pour soi et quand on écrit et qu'on est maintenant édité, parce qu'elle a effectivement un éditeur qui attend des choses. Alors elle n'est pas toujours inspirée, mais elle écrit quand même 3-4 pages donc, par nuit. Et à la question, parce que c'est vrai que beaucoup d'écrivains disent que quand ils sont en train d'écrire un ouvrage, ou ce qui va en devenir un en tous les cas, ils arrêtent de lire. Elle dit qu'elle, personnellement, elle n'y croit pas. En tous les cas, ce n'est pas son cas. Et elle dit que ces trois, à la question de Dominique sur les auteurs contemporains actuels italiens, elle dit qu'elle aime Margherita Manzantini, Amaniti et bien sûr Stefano Benni, qui en parenthèse d'ailleurs a fait des émissions en Italie avec Pennac sur la littérature. Elle donc dit que ces gens-là l'influencent, en fait. Et quand elle est en mal d'inspiration, elle lit, de toute manière, et il lui redonne, il la rebooste, en fait, il lui redonne de l'inspiration. Et elle dit même que Nicola Manitti, elle a toujours un livre de lui à côté d'elle, hein, parce que c'est l'auteur, visiblement, actuel, italien, qu'elle préfère. Mais c'est intéressant, ce rapport à la lecture, parce que visiblement, elle lit toujours beaucoup, en fait. Elle lit toujours beaucoup, beaucoup. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose.
Non, je pense qu'effectivement, hein, tu as dit l'essentiel de ce qu'elle, de ses réponses. Alors, il nous reste très peu de temps. On va simplement évoquer trop rapidement, malheureusement, parce que c'est aussi un superbe bouquin. C'est son troisième roman qui est paru en italien, bien sûr. Il n'est pas encore traduit en français. Qui est paru en octobre 2014, Quella vita che ci manca. Alors, il y a deux choses. Il y a la romancière qui estime qu'elle n'a pas tout dit de ce quartier qu'elle appelle la Fortezza, ce quartier de Rome qui constituait le cadre de son premier roman. Donc, elle y revient. Elle veut dire des choses qu'elle n'a pas dites. Hein. Dans le premier roman, on pouvait deviner que c'était là, hein, mais la délinquance n'était pas trop présente. Là, y a la délinquance. Et elle raconte ça à travers l'histoire encore d'une famille avec quatre frères et sœurs, tous d'un père différent. Bon, la mère fait l'impossible pour assurer le quotidien, mais elle finit par baisser les bras. Et c'est Anna, la grande sœur, qui prend en charge sa famille, qui fait tout pour essayer de pousser ses frères à sortir du quartier. C'est un roman absolument bouleversant. J'espère que Philippe Rey va nous le traduire bien vite pour qu'il permette à ceux qui ne l'ont pas lu d'en prendre connaissance. Voilà, Valentina d'Urbano, une belle rencontre. Inutile de dire que les passe-mappages, bien sûr, étaient sous le charme et que pour eux, ça risque d'être un moment qui va rester encore longtemps avec eux.
Mais il fait une petite... c'est pas un compte-rendu, c'est très en dessous, ce que j'appelle compte-rendu, mais une petite manifestation autour du retour de Passe-ma-page à la librairie Majorelle.
Oui, oui, oui.
Et je trouve que ces jeunes gens nous ont vraiment fait passer leurs impressions de voyage et surtout l'impression de rencontre, on va dire, avec un
auteur
d'Urban. Vraiment.
Ouais, ouais.
Et leur lecture était très bien faite, bien choisie, et ce qui prouve que c'était pour eux un moment riche. Mais je pense qu'il a été riche aussi pour Valentina d'Urbano.
Elle était très émue.
Voir un petit groupe arriver d'un pays étranger qui a lu, en traduction certes, mais qui a lu, enfin peut-être certains l'ont lu en italien, le premier je ne sais pas, mais à son âge en plus, elle est guère plus âgée que la plupart de ces jeunes qui l'ont visité, je trouve c'est un moment sans doute auquel
fort.
Peut-être on aurait bien aimé assister.
Tiens. Mais je peux le penser, elle n'a pas hésité, elle a dit nous ça, autour de nous, on n'a jamais vu, et c'est moi qui en suis... La bénéficiaire, elle était très heureuse.
Voilà, alors Passe ma page, c'est un club de... Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Dominique?
Non, ça va.
Passe ma page, c'est un club de lecture, on peut appeler...
Oui, bien sûr.
De l'intérieur de la librairie Majolire. Et vous savez que Majolire organise beaucoup de choses. Et le 13 juin, samedi 13 juin à 14h30, je voulais vous signaler, donc à la librairie Majolire, Bourgoin, une rencontre avec Jean Guichard, Entrée libre, bien sûr, qui parle des chansons de 1915-1918 en Italie. 1915, c'est l'entrée en Italie, l'entrée en guerre de l'Italie. Le thème, c'est chansons au fusil, chansons au pays et chansons anti-fusil. Bon, par les trois catégories, on comprend de quel type de chansons on va parler, c'est-à-dire les chansons qui motivent les soldats et les chansons antimilitaristes aussi. Voilà. Donc, samedi 13 juin, 14h30, librairie Majolire. Merci Dominique
d'être merci Alain.
Venu à notre émission à l'écoute de l'Italie.
Merci Laurent.
Et merci Laurent. À bientôt.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.